La dernière fois que j'avais essayé d'enregistrer, ça n'a pas marché. Je ne sais pas si ça dit que c'était en train de... Oui, ça enregistre. OK, deuxième leçon ce soir, concernant l'interprétation, c'est concernant l'interprétation de la Bible. C'est la deuxième leçon dans l'eschatologie. Nous sommes en train de regarder les choses à venir. Et dans la première leçon, nous avons remarqué qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons être encouragés par cette étude dans l'eschatologie, par cette étude dans les choses à l'avenir. Je ne sais pas si vous pouvez se souvenir un peu de certaines raisons, mais premièrement, on peut être encouragé parce que même l'apôtre Paul nous dit, mais encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. Il était en train de nous dire ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, après avoir parlé de l'enlèvement de l'Église. Mais au fond, il y a une autre raison pour laquelle on peut être encouragé par cette étude, et c'est simplement le fait que nous avons un Dieu qui connaît l'avenir. Et c'est lui qui est souverain, et pour quelqu'un qui puisse même raconter ce qui arrive dans l'avenir, il faut qu'il soit omniscient, c'est-à-dire qu'il connaisse toutes choses, qui soit tout puissant, qui peut faire que toute chose arrive à son temps, qui soit souverain, c'est-à-dire qui est en contrôle de toute chose. Et c'est ça notre Dieu, un Dieu qui est souverain, un Dieu qui est omniscient, omniprésent, et un Dieu d'amour. Il veut révéler pour nous les choses à venir. Et souvent, nous voyons dans les Écritures que Dieu révèle le futur pour encourager ses enfants, mais aussi pour être un avertissement, pour qu'on ne dort pas comme les autres, mais qu'on veille et qu'on soit prêt. Et Dieu avertit aussi les non-sauvés, pour qu'ils puissent aussi soit avertir du jugement qui arrive. Si on parle de l'enfer, ou si on parle du jugement qui vient, c'est une manière que Dieu est en train de montrer son amour envers ceux qui sont là. Oui, le jugement arrive. Dieu est un Dieu qui est juste, mais au même moment, Dieu est un Dieu qui est amour et il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent au salut et que tous soient sauvés. Et voilà quelques raisons pour lesquelles nous pouvons être encouragés par cette étude. Une dernière raison, on a souligné, c'est aussi même dans l'Apocalypse. Béni soient ceux qui lisent la prophétie qui se trouve dans ce livre. La semaine passée, on a aussi souligné que avant de vraiment avancer dans notre connaissance des choses qui arrivent, les choses futures, il faut qu'on a certaines bases concernant l'interprétation de la parole de Dieu. Et c'est ça où je vais regarder avec vous ce soir. Beaucoup de gens se trompent dans ce domaine d'eschatologie, des choses à venir, parce qu'ils n'ont pas même les bases d'interprétation. Et ce soir, on va regarder certains principes d'une interprétation biblique, d'une interprétation de la parole de Dieu. La première chose, on commence, c'est simplement 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est ça la base de ce que nous sommes en train de regarder ce soir concernant l'interprétation. Toute écriture est inspirée de Dieu. Si toute écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire on n'a pas des erreurs dans la parole de Dieu, on a exactement ce que Dieu veut, et on a aussi la possibilité d'interpréter la parole de Dieu avec la parole de Dieu, parce que cette parole est inspirée, il n'y a pas des erreurs. Et on va arriver à expliquer ce point dans un instant. Mais le texte continue en disant, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu est aussi utile. C'est quelque chose que Dieu a voulu donner à nous tous pour que ça soit utile dans nos vies, pour nous aider à être comme Jésus-Christ, pour nous montrer ce qui ne va pas, pour nous montrer comment on peut arranger ce qui ne va pas, et aussi pour enfin nous corriger et pour nous aider à comprendre le chemin qu'il faut marcher avec le Seigneur. Alors voilà, toute écriture inspirée de Dieu. Peut-être que vous avez entendu dans le passé, et beaucoup de gens dans le monde pensent aussi aujourd'hui, que voilà, on peut interpréter la Bible de notre propre façon. Tout le monde peut interpréter de la manière qu'il voulait, mais ce qui compte, c'est que Dieu parle à ton cœur à travers sa parole. Là, non, il faut vraiment souligner, la Bible n'est pas là pour qu'on puisse interpréter tous d'une manière ou l'autre. Ce n'est pas que, voilà, un reçoit un certain message et l'autre une autre. C'est vrai que les applications peut-être pouvaient être différentes. Moi, je peux faire une lecture de Psaume 23 et Dieu peut parler à mon cœur d'une certaine manière concernant un certain verset et peut-être il va faire une autre manière pour toi. Mais le principe est là. Psaume 23, on n'interprète pas Psaume 23 de n'importe quelle manière. Il y a certaines règles, certains principes qu'on utilise pour interpréter. Et c'est ça, notre rôle en tant que quelqu'un qui est en train de lire la Bible, c'est de trouver mais exactement ce que Dieu a dit. Parfois, c'est pas facile. Je ne dis pas que l'interprétation de la Bible, c'est une chose facile. Mais je dis que c'est une chose où nous pouvons arriver à comprendre. Nous pouvons arriver à trouver ce que Dieu a dit. Nous ne devrons pas être dans les ténèbres et les principes qu'on va utiliser ce soir va vous aider à comprendre, on peut dire, peut-être 95% de tout ce que vous allez lire dans la Bible. Si vous interprétez et si vous utilisez ces principes, ça va vous aider grandement à comprendre la Bible. Alors, commençons avec une première interprétation, première règle de base. Et c'est vraiment une chose de base, mais on interprète en fonction de la grammaire. Interpréter en fonction de la grammaire. Chaque langue a des règles à suivre afin d'écrire et de parler correctement. Alors, suivez ces règles de grammaire. C'est ça qui est juste aux bases de ce que nous sommes en train de dire. La Bible n'est pas un livre où vous pouvez venir et interpréter cela sans regarder aussi la grammaire qui est là. Si vous trouvez un adjectif, alors c'est descriptif. Si vous trouvez un verbe, passé, présent, futur, le parfait, ou ça dépend, imparfait, ça vous aide à interpréter la parole de Dieu. Deuxième chose, à moins d'indications contraires ou d'impossibilités flagrantes, prenons les affirmations bibliques au sens propre, le plus littéralement et le plus simplement possible, en acceptant les affirmations comme elles nous sont données. Alors, Alfred Kuhn, c'est dans un livre « Comment interpréter la Bible », il a mentionné ceci. Ça, c'est un livre que je peux vous encourager à lire si vous voulez regarder même davantage l'interprétation de la parole de Dieu. Mais c'est là, quand on regarde un verset dans la Bible, on va prendre ça d'une manière le plus littérale possible, au sens propre, littéralement, si c'est possible, en acceptant ce qui est là. Je dis si c'est possible parce que il y a des temps où on ne va pas prendre quelque chose littéralement. C'est le contexte qui va déterminer cela. Comme par exemple, je disais déjà Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors, mon berger, alors il n'est pas comme un berger physique, mais il utilise une image, une métaphore, comme une berger. Il est comme un berger pour nous. Et on va regarder les figures de style bientôt, mais la plupart du temps, quand vous lisez la Bible, et même n'importe quelle œuvre littéraire, commençons avec le sens propre, le sens le plus simple, et ne regardez pas une autre chose si le contexte ne dit pas cela. Voilà, un autre exemple. Quand Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Alors, si vous prenez ça d'un sens littéral, alors, ça va dire que Jésus est une porte des brebis. Une porte littérale des brebis. Et ça n'a pas de sens, mais on sait que il est en train de remplacer, une idée avec une autre idée. Et encore, c'est comme une métaphore. La porte des brebis. Il n'est pas actuellement une porte pour les brebis, mais il est comme une porte pour les brebis. Et les brebis peuvent entrer à travers lui pour avoir la vie. Kuhn a dit ceci, il a cité un autre auteur, Blocher, en disant, on ne lit pas le code civil comme un roman d'aventure, ni un traité de mathématiques comme un recueil de poèmes. Un passage biblique doit se comprendre en fonction de son style. Quand comprendre littéralement une métaphore, c'est de ne pas la comprendre du tout. C'est ça, il y a un code civil, vous allez lire ça d'une manière, et un roman d'aventure, une autre. Et si vous avez lu Le Voyage du Pèlerin, vous allez savoir que Le Voyage du Pèlerin, c'est une allégorie. C'est-à-dire, quand il parle de quelqu'un chrétien qui est en train d'aller dans la ville céleste, dans l'histoire pour chrétien, c'est un réel endroit. Mais à travers Jean Bunyan, qui a écrit ce livre, il utilise chaque chose dans son livre comme une allégorie. Ça représente une autre chose. Et c'est là où plusieurs gens, en arrivant à la Bible, ils voient l'allégorie partout. C'est vrai, il y a certains endroits qui sont une allégorie, mais la plupart du temps, ça se voit directement. Même Paul va parler d'une allégorie, il va utiliser même ce mot. Alors, chaque œuvre littéraire devrait être interprétée en fonction de son style. Bientôt, on va regarder l'Apocalypse et comment on va interpréter l'Apocalypse. Mais commençons juste avec cette base. Et on pose la question, pourquoi faut-il une interprétation littérale? Si on n'utilise pas une interprétation normale, on perd l'objectivité. Bien plus, les prophéties se sont accomplies littéralement. Mais avant cela, on perd l'objectivité. Le contraire de l'objectivité, c'est subjectivité. C'est-à-dire, ça devient trop subjectif. Moi, je pense que c'est ici. Toi, que tu penses, c'est cela. Si on parle de l'Apocalypse et on parle de cette bête féroce, si on prend ça d'une manière, ça peut être ci ou ça peut être cela, et c'est à toi de déterminer, à moi de déterminer. Non, on perd l'objectivité, on en devient plus subjectif. Il y a des dangers. Dès que tu entres dans cette idée de subjectivité, c'est chacun qui puisse avoir une interprétation qui est valable. Mais subjectivité, ce n'est pas ça. Dieu n'a pas voulu qu'on soit, on peut dire, en train de questionner toujours, mais quel est le sens ici? Dieu donne des indications pour qu'on soit objectif. Même dans le livre d'Apocalypse, on va voir que les choses qui sont cachées, les choses qui sont bizarres ou les choses qu'on ne comprend pas, parfois, Dieu interprète cela pour nous. Je vais vous montrer un exemple de cela bientôt. Mais interpréter de façon littérale, si c'est possible. C'est ça une règle de base d'interprétation. Sinon, ce sera trop subjectif dans votre interprétation. J'ai mentionné aussi que ce fait d'interpréter littéralement les prophéties, c'est exactement ça, ce qui est arrivé quand nous voyons les prophéties de Jésus. Ils ont été accomplis littéralement. Une vierge a donné naissance à Emmanuel. Ésaïe 7 parlait de cette vierge qui deviendra enceinte et voilà, elle aura un enfant, on s'appelle Emmanuel, exactement ça, c'est ce qui est arrivé. Et si vous voyez Ésaïe 53, cet homme de douleur qui a porté nos péchés sur lui, sur le quoi, il était brisé, il était percé, son tombeau était parmi les riches. Plusieurs prophéties comme cela étaient accomplies littéralement, exactement comme ça se dit, pas une allégorie ou pas un symbole, mais exactement comme ça. Et si ça c'est le cas, avec les centaines de prophéties, des messianiques, prophéties messianiques, mais bien plus concernant les autres choses qui seront à l'avenir. Dans la Bible et dans les Romains, dans les autres œuvres littéraires, vous allez voir les figures de style. La Bible est pleine des figures de style. Ça rend que nous voyons quelque chose, c'est plus expressif pour l'auteur. Au lieu de simplement utiliser un simple style partout, on peut voir que Dieu peut inspirer un prophète à utiliser les métaphores, à utiliser l'allégorie, à utiliser les autres figures de style. Au lieu de regarder toutes ces figures de style, je vous encourage, quand vous avez le temps, de regarder cela. Dans les notes qui sont devant vous, vous pouvez voir toutes les différentes sortes de figures de style qu'on peut voir dans la Bible. Je vais juste souligner quelques-uns qui sont le plus communs et vous allez remarquer cela ici bientôt. Premièrement, je viens de mentionner métaphore. Une métaphore, c'est simplement une comparaison. Si on a une simple comparaison, on peut dire, voilà, Jésus est comme un berger pour moi. Ça, c'est une simple comparaison. Si j'omets cette signe de comparaison, c'est-à-dire le mot comme, et je dis Jésus, mon berger, Jésus est mon berger, voilà, on a une métaphore. On met le comme et on indique que voilà, on a un mot qui remplace un autre, mais l'idée est là. Et voilà, plusieurs exemples de cela dans l'Ancien Testament, dans les Psaumes. Par exemple, l'Éternel est mon berger, c'est lui mon rocher, mon haute retraite. Dans le Nouveau Testament, Jésus a utilisé cela aussi. Moi, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Allégorie, je vous ai mentionné cela. C'est là où on a une représentation des idées par les idées symboliques. Parfois, quand on voit Israël en tant que le vigne, c'est parfois une allégorie, c'est-à-dire le vigne représente Israël. Et quand vous voyez cela dans la Bible, le vigne, vous pouvez voir que c'est un remplaçant pour Israël. Parfois, on compare les mots. Parfois, on va faire une substitution. On remplace un mot par un autre mot. Ici, on a, par exemple, l'idée de métonymie. Métonymie. C'est là l'idée où quelque chose est désigné par un autre mot qui lui est associé par un lien de logique, une relation analogique. Pense à cela pour une métonymie. Si je donne un exemple dans le monde aujourd'hui, on parle d'une décision de l'Élysée. Élysée, c'est l'endroit où le président réside en France. Alors, si je dis c'est une décision de l'Élysée, c'est-à-dire, Élysée était en train de remplacer le président. Si je dis, mais allons-y, on boit un verre, je ne bois pas le verre, mais je bois ce qui est contenu dans le verre. Et dans la Bible, on a ces figures du style aussi. Par exemple, Ésaïe 53, verset 5, c'est par ces meurtrisseurs que nous sommes guéris. Alors, on voit plusieurs choses. Les meurtrisseurs, ça représente la mort de Christ pour nous quand il était blessé sur le croix et nous sommes guéris par cela. On ne parle pas d'une guérison physique, on parle d'une guérison spirituelle que Dieu pénètre à travers cela. Parfois, on voit dans la Bible l'idée d'une autre ici, euphémisme. C'est quand on veut, d'une manière, adoucir un mot et on remplace ça avec un autre pour ne pas être trop choquant ou pour être trop brusque. En anglais, par exemple, si quelqu'un est tellement gros et je ne veux pas tirer l'attention sur le fait qu'elle est fat, je peux dire, mais elle est un peu, c'est pas, what would I say, portly, or, ça c'est les exemples en anglais. Mais il y a la même chose en français. Si quelqu'un est un peu trop gras, je ne dis pas, mais elle est gras, je peux dire, mais, voilà,
elle n'est pas petite.
Elle n'est pas petite, ok. En tout cas, euphémisme, c'est quand on remplace une chose par une autre pour atténuer l'idée. Par exemple, dans le Nouveau Testament, au lieu de parler de la mort, on parle de ceux qui s'endorment. Parfois, pour remplacer les mots parlant des idées sexuelles, on peut ils vont utiliser les autres mots pour atténuer cela. Et ça arrive, c'est le euphémisme. On voit aussi d'autres choses, hyperbole, quand quelque chose est dit pour exagérer, mais on exagère à l'extrême pour renforcer une idée. Par exemple, dans les psaumes, parfois vous voyez les j'ai pleuré des torrents d'eau. Alors c'est pour dire, voilà, j'ai vraiment pleuré. Et vous pouvez regarder les autres, c'est pour dire que la Bible est comme toute autre œuvre littéraire, ça a beaucoup de figures de style. Et Dieu n'a pas voulu simplement donner sa parole d'une manière plate, mais il a voulu qu'on réfléchisse, qu'on voit les analogies, qu'on voit les liens, les comparaisons, et ça nous aide à réfléchir, mais ça donne une certaine vivacité aussi à la parole de Dieu. Voilà, peut-être à la fin, vous pouvez avoir des discussions sur les différentes figures de style dans la Bible, mais n'oublie pas les premières deux, règles d'interprétation, voilà, fonction de grammaire, interpréter en fonction de la grammaire, et deuxièmement, prenons les affirmations bibliques au sens propre, le plus littéralement possible. C'est le contexte qui va déterminer si vous ne prenez pas ça comme une chose littérale. Un autre exemple de cela, quand Jésus dit, il a raconté une parabole en disant ceci, voilà, quand il dit parabole, déjà, vous savez qu'il va dire une chose où vous pouvez remplacer les idées dans la parabole avec une autre chose. Ils sont des symboles qu'il va utiliser pour remplacer une autre idée. Et parfois, il est en train de parler de lui-même, le fait qu'un jour, il viendra. Il parle d'un maître et d'un ouvrier. Et voilà, il va laisser le maître avec certains talents. Et le serviteur avec certains talents, un jour il devrait rendre compte à son maître. Tout ça c'était une parabole et lui, il était en train de parler de lui-même, qu'un jour on va rendre compte à Dieu pour tous les talents que Dieu nous a donnés. Voilà juste un exemple aussi. Troisième règle maintenant, interpréter écriture par l'écriture. L'écriture par l'écriture. L'écriture est elle-même son propre interprète. Ça ne peut pas se passer si la parole de Dieu n'est pas inspirée ou si la parole de Dieu a des erreurs. Mais si la parole de Dieu est véritablement inspirée par Dieu, on peut savoir que là où il y a un endroit où c'est difficile à comprendre, un autre passage dans la Bible va nous aider. Pour bien interpréter la Bible, Ryrie a dit ceci, rien ne saurait remplacer une grande familiarité avec elle. C'est pourquoi c'est important pour nous tous d'être des étudiants de la parole, pour qu'on ne soit pas égaré. Quelqu'un peut prendre un verset dans un endroit et il peut dire quelque chose, mais tout de suite tu peux dire que, ah non, ça c'est une contradiction avec ce que Dieu a déjà dit. L'interprétation qu'il donne là, c'est pas bon. Et c'est ça, interpréter l'écriture par l'écriture. Zwingli pendant la Réformation. Vous savez, à une époque, l'Église catholique a renfermé la parole de Dieu en disant que les êtres humains ne sont pas capables d'interpréter pour eux-mêmes la parole de Dieu. Il faut laisser l'Église faire ça pour vous. Mais Zwingli et Luther et Calvin et les autres ont dit non. Écoute, la Bible est là pour tout le monde. Et Zwingli a dit ceci, si la Bible est obscure en quelque endroit, la parole de Dieu l'éclaire ailleurs. Et c'est ça ce qu'on va voir même dans cette idée d'eschatologie. On va arriver à certains passages qui sont difficiles à comprendre, mais c'est les autres passages dans la Bible qui vont nous diriger. John Knox aussi, un réformateur, a dit ceci, la parole de Dieu est claire en elle-même. Et si une obscurité apparaît en quelque endroit, le Saint-Esprit, qui ne peut jamais se contredire, explique la même chose clairement ailleurs, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute, sauf pour ceux qui, obstinément, restent ignorants. Et voilà, il y a certains gens qui m'ont dit non, je ne veux pas, mais pour nous tous, on peut savoir que s'il y a quelque chose obscur quelque part, d'ailleurs, il y aura une clarification par rapport à cela. Et c'est ça, ça revient au quatrième point, interpréter les textes obscurs à la lumière des passages clairs. Interpréter les textes obscurs à la lumière des passages clairs. Obscur, qu'est-ce que je veux dire par cela? Parfois, on a des textes où ils sont difficiles à comprendre. Il semble que ça contredit une autre partie de la parole de Dieu. C'est souvent ici que les gens comme les témoins de Jéhovah ou les mormons ou les autres gens qui sont dans les sectes, ils vont utiliser la parole de Dieu, ils vont choisir un texte obscur et ils vont baser toute leur doctrine là-dessus en oubliant que les autres parties de la Bible contredisent ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est là où encore il faut avoir une grande familiarité avec toute la parole de Dieu. Mais là encore, il faut pas qu'un texte obscur détermine la doctrine de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, interpréter les textes obscurs à la lumière des passages clairs. Cinquième point, tenir compte du caractère progressif de la révélation. Nous avons un Ancien Testament et nous avons un Nouveau Testament. Et nous voyons que, voilà, par exemple, dans l'Ancien Testament, il y avait tout un système des sacrifices. Et ce système de sacrifices, Dieu a instauré pour que les gens puissent avoir un moyen de venir vers Dieu et d'avoir leur péché pardonné, on peut dire, à cet instant. Mais au fur et à mesure, quand Jésus-Christ est venu, les sacrifices sont arrêtés. Et maintenant, on voit à travers cette révélation progressive qu'on n'a plus besoin des sacrifices en tant qu'une croyante. C'est Jésus-Christ qui est ce sacrifice parfait. Et il y a plusieurs doctrines comme cela où on voit une progression. Commençons en Genèse, ça progresse, et maintenant dans le Nouveau Testament, on comprend ce qui était obscur et ce qui n'était pas clair dans l'Ancien Testament. Alors, il y a une façon progressive de doctrine. Ce qui était vrai pour le temps des Israélites, les lois cérémonielles, par exemple, il y a certains gens aujourd'hui qui disent que voilà, il faut pas manger du porc. Les juifs n'ont pas mangé du porc et voilà, pour nous aujourd'hui, il faut pas manger du porc. Mais c'est là où le chrétien voit une progression de doctrine. Parce qu'on voit même les mots de Jésus, il a dit ceci, il a dit ce qui sort de la bouche, ce n'est pas ça qui suit l'homme, mais ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche qui suit l'homme. C'est-à-dire c'est ce qui est dans le cœur. Et déjà Jésus était en train de purifier tout élément. Et dans le livre des Actes, on voit la même idée. Quand Pierre a eu cette vision des choses impures, et il y avait une voix qui dit « mange lève et mange. Et Pierre a dit, non, j'ai jamais mangé cela. Et trois fois, la vision est venue. Et c'était pour lui dire que, voilà, en tant qu'un juif, il ne devrait pas se séparer maintenant des païens. Il devrait aller évangéliser les païens pour être avec eux. Et pour nous aujourd'hui aussi, nous voyons une application concernant les éléments. Si on peut demander à Dieu de bénir et on peut remercier le Seigneur pour une nourriture, alors il n'y a pas une raison de ne pas manger cela. Et la seule chose pour une croyant, c'est je ne peux pas manger, je ne peux pas boire quelque chose si ça fait un scandale pour un autre. C'est ça le règlement pour moi aujourd'hui, mais le fait de dire que je ne peux pas manger quelque chose parce que c'était interdit dans l'Ancien Testament, on n'est pas en train de rendre compte qu'il y a une progression de révélation. Il y a plusieurs idées comme ça et on va voir une progression aussi dans l'idée de l'eschatologie. Sixième point, bien sûr, il y a les différents genres littéraires. Il y a des endroits narratifs comme les évangiles, les actes, Genèse, la plupart c'est narratif, c'est-à-dire ça raconte une histoire. Il était une fois quelqu'un ici et voilà ce qu'il a fait et ce qui est arrivé. Voilà, Jésus est allé ici et après il est allé ici. Voilà les narratifs. Plusieurs endroits dans 1 de Samuel, 1 de Chronique, où on voit simplement la vie, par exemple, de David, où on est en train de suivre ce qui se passait avec Saoul, ou Élie, ou Élisée. Voilà, un roi, deux rois, Esther, Néhémie, Jonas. Mais il y a aussi des endroits poétiques. Et c'est là, il faut savoir que la poésie hébraïque n'est pas comme la poésie française ou anglaise. En anglais, on a une rime sonore. Je connais certaines poésies en anglais. Je peux vous raconter Roses are red and violets are blue. How's it go? Roses are red and violets are blue. anyways, I love you. And it's like, voilà, le bleu et le you et le une sonorisation sonore qui est là. Mais en hébreu, ce n'est pas ça. Parfois, il y en a une rime de sonore, mais c'est très rare. Ce qu'on voit, plutôt, c'est une rime de sens. Et si vous regardez, par exemple, les sons, vous pouvez voir une phrase, et la deuxième phrase va avoir une rime de sens. Il y aura un synonyme, parfois, un antonyme de phrase, mais la poésie. Et plusieurs endroits dans la Bible sont, on peut dire, poétiques. Par exemple, les sons. On a un autre genre de littérature, genre littéraire prophétique. Voilà, on voit les prophètes. Didactique, c'est destiné à enseigner. Et voici les autres aussi. Alors, tenez compte, reconnaître qu'il y a des différents genres littéraires. Septième point. Voilà, focal de la Bible, le point focal, c'est Dieu lui-même. Et en particulier, comment il se révèle dans la personne et œuvre de Jésus-Christ. Jésus-même a dit, vous sondez des Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus est en train de dire, vous regardez l'Ancien Testament? Vous voyez en elle la vie éternelle? Oui, oui, mais c'est tout cela qui rend témoignage de moi. Si vous voyez le système de sacrifice, si vous voyez le tabernacle, si vous voyez les fêtes nationales, tout est en train de diriger vers Jésus-Christ. Pas simplement les prophéties messianiques, mais aussi tous les types qui sont là dans l'Ancien Testament. On voit un accomplissement en Jésus-Christ. Et interpréter en fonction, comment est-ce que je peux voir et comment est-ce que je peux mieux connaître Dieu à travers ce texte? Qu'est-ce que ça me dit concernant mon Dieu? Qu'est-ce que ça indique concernant ce qu'il me demande? Qu'est-ce que ça dit concernant Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça nous dit concernant le Saint-Esprit? C'est Dieu qui est le point focal. Et une dernière, interpréter en fonction du contexte. Toujours contexte. La Bible n'est pas un livre où vous pouvez juste sauter un verset et ne pas prendre garde au contexte. Vous savez, si vous avez lu le Coran dans le passé, vous allez voir que il n'y a pas de contexte dans le Coran. C'est rare à trouver 3 ou 4 ou 5 versets ensemble qui a un sens où ça connecte les uns les autres. Ça arrive, mais le Coran n'est pas comme ça. C'est comme une chose ici et une autre chose là-bas. Il n'y a pas d'ordre, même logique qu'on voit. Mais dans la Bible, on voit une progression et on voit un contexte. Chaque livre a été écrit et il ne faut pas sauter un verset de son contexte. Et voilà. Par exemple, je donne l'exemple dans Psaume 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Alors si j'enlève le contexte et je dis, est-ce que vous savez que la Bible dit qu'il n'y a point de Dieu? Ça, c'est de prendre un texte hors du contexte. C'est l'insensé qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Oui, la Bible dit qu'il n'y a pas de Dieu, mais c'était l'insensé qui a dit cela. Alors, je ne peux pas dire que la Bible dit qu'il n'y a pas de Dieu. Non, c'est l'insensé qui a dit qu'il n'y a pas de Dieu. Alors, j'espère que vous comprenez ce que je voulais dire. Ne jamais prendre une verset hors du contexte. Essayez toujours de lire au moins le paragraphe qui est avant, le paragraphe après. Et ça va vous aider grandement à comprendre un texte. Si vous êtes calé parfois à comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire ce texte, ce verset, mais commence avec le contexte du livre, le contexte du chapitre, le contexte autour du verset, même parfois le contexte dans la Bible elle-même. Ça peut vous aider avec l'interprétation. Pour clôturer, j'avais ajouté une 9e, comme nous sommes en train de regarder les choses à venir. J'aimerais juste vous aider à savoir qu'il y a 4 différentes façons dans l'histoire où les gens ont interprété le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse, on arrive à un genre prophétique et c'est une manière autre d'interpréter. On va faire la même chose, on va interpréter littéralement, sauf si le contexte oblige à ne pas faire cela. Maintenant, regardons 4 façons que les gens ont interprété ce livre d'Apocalypse. Bien, on va regarder Apocalypse plus tard, mais comme nous sommes en train de parler de l'interprétation, j'aimerais juste vous montrer qu'il y a 4 façons que les gens ont interprété ce livre. Même on peut ajouter une 5e, mais pour le moment, vous allez entendre les gens dire que le contenu de l'Apocalypse, ça concerne les événements qui sont déroulés au premier siècle. Tout ce que vous voyez dans l'Apocalypse, ça ne parle pas même des choses à l'avenir. Tout ça s'était accompli dans le premier siècle. Même, certains vont dire, avant la chute de Jérusalem en l'année 70 après Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ, il est ressuscité dans l'année environ 33 après Christ, et environ 35 années après, une génération après, nous voyons la chute de Jérusalem brûlée complètement, même Jésus a prédit cela, mais ce que les gens vont dire par rapport à Apocalypse, c'est Apocalypse aussi est en train de parler de tous ces événements qui sont déroulés dans le premier siècle. Cette manière d'interpréter, c'est le nom donné, c'est prétériste, prétériste. Pré, c'était avant. Ça parle des événements. Prétériste, c'est une interprétation des choses qui se passent au premier siècle. Moi, je ne crois pas cela. Je crois qu'il y a des fortes raisons de ne pas faire cela. Et une deuxième manière, c'est l'interprétation historicite. Historiciste. c'est quand on regarde que le livre d'Apocalypse est un survol de l'histoire de l'Église depuis les temps apostoliques jusqu'au temps présent. C'est-à-dire que, voilà, on voit dans une partie d'Apocalypse le premier 2 siècles de l'histoire. Et après le troisième et quatrième siècle, c'est une autre partie d'Apocalypse. Et ils vont aller jusqu'à nos jours en disant que vous pouvez interpréter et voir toute l'histoire de l'humanité depuis le temps de Christ jusqu'à nos jours aujourd'hui dans le livre d'Apocalypse. Mais il y a un problème avec ce point de vue, et c'est trop subjectif. Il n'y a pas d'indication que ce qu'on voit dans l'Apocalypse, ça c'est une chose qui parle de simplement ce qui arrive pendant tous les siècles. Et quand vous voyez toutes les interprétations des gens qui avancent cette idée, ils sont vraiment différents. Il n'y a pas deux qui sont d'accord l'un avec l'autre concernant la manière d'interpréter. C'est trop subjectif. Je crois que il y a une meilleure façon d'interpréter Apocalypse. Une troisième, idéaliste, c'est-à-dire il trouve dans Apocalypse les leçons spirituelles, et ces leçons spirituelles sont véhiculées par des symboles. Et bien, ça peut parler des choses à l'avenir, mais ce n'est pas ça. Pour eux, interpréter d'une manière idéaliste, c'est simplement d'interpréter cela. Voilà, ce sont des choses, ce sont des symboles. Bien, ça peut être les choses à venir, mais ce sont des symboles de la guerre de bien contre le mal. Mais encore, l'Apocalypse, quatre fois, est désigné comme une prophétie. La prophétie qui était donnée. Et quand on parle de prophétie, on parle des choses qui sont à l'avenir. Et c'est ça la dernière façon d'interpréter que moi je trouve futuriste. C'est-à-dire, la plupart d'Apocalypse, les chapitres 4 jusqu'à 22, ça prophétise les événements qui durent durablement au moment donné dans le futur. Et voilà, MacArthur explique ceci, il dit que c'est seule cette approche permet que le livre d'Apocalypse soit interprété selon la méthode herméneutique d'ordre littéral, grammatical et historique, au moyen de laquelle les autres passages non prophétiques de l'écriture sont interprétés. C'est-à-dire, à partir du chapitre 4, on voit les événements dans l'avenir. Et si vous regardez l'ordre dans lequel c'est présenté et la présentation du livre d'Apocalypse, vous allez voir que c'est la seule méthode qui est en train de, on peut dire, nous aider ou en train d'honorer les principes d'interprétation qu'on vient de voir, qu'on interprète de manière grammatique, littérale, historique, et au moyen des autres passages, et voilà. Je crois que le système futuriste, c'est la meilleure façon à regarder. La Bible interprète la Bible, même dans les passages obscurs. Et je termine avec un texte dans l'Apocalypse, comme je viens de vous dire. Si vous regardez avec moi le premier chapitre dans l'Apocalypse, nous allons étudier l'Apocalypse plus tard, mais si vous avez lu l'Apocalypse dans le passé, vous savez qu'il y a des textes qui sont difficiles à comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment interpréter? Encore, interpréter de la fonction de la grammaire. Laisse la Bible interprète elle-même. Et quand vous regardez dans le premier chapitre, il y a cette vision que Jean a eue sur l'île de Patmos du Seigneur Jésus. Et on voit que Jésus était là et on voit verset 12, « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. » Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Alors, bien sûr, on voit une vision, c'est un peu bizarre, sept chandeliers d'or. Est-ce que ces sept chandeliers représentent quelque chose? vous pouvez interpréter en regardant l'Ancien Testament que oui, le chandelier était dans le tabernacle et à travers cela, vous pouvez voir que voilà, ça peut représenter la lumière ou ça peut être représenter d'autres choses. Et vous pouvez imaginer juste en regardant les autres cultures. Mais dans ce contexte, c'est Apocalypse qui nous dit exactement ce qui représente les chandeliers. Et c'est à la fin du chapitre 1 où vous voyez cela. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers or. Les sept étoiles sont les anges de cette église et les sept chandeliers sont les sept églises. Voilà, quand la Bible interprète elle-même, c'est ça qui va nous aider. Et toujours, dans les passages qui concernent l'avenir, essayez de trouver des passages où la Bible interprète elle-même. Et là, vous n'allez pas s'égarer. Voilà un peu concernant les bases d'interprétation d'un texte et de la Bible, et surtout quand on interprète les textes qui concernent l'eschatologie, les choses à l'avenir. La semaine prochaine, nous allons regarder l'eschatologie de Daniel. Daniel, dans l'Ancien Testament, j'aimerais juste commencer dans l'Ancien Testament et on voit certaines choses qui sont arrivées de base dans l'Ancien Testament qui vont nous aider même avec ce qui arrive dans l'avenir. Alors, merci pour l'attention et j'ouvre maintenant pour les questions. Et je vais juste arrêter l'enregistrement.